forêt, nos différences.
In 500 meters, go straight and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Aujourd'hui, fin de mon périple estival. Et comme on dit dans le sport, aujourd'hui, je joue à la maison à Angers. L'idée de cette série était de donner un coup de projecteur sur des bibliothèques insolites. Alors une question peut se poser. Y a-t-il des espaces à Angers pour que des projets un peu différents trouvent leur place dans une ville qui a maillé son territoire de façon très intelligente, puisqu'on compte pas moins de 9 bibliothèques réparties dans les quartiers, soit une bibliothèque pour 17 500 habitants. Et certains de ces équipements ont été totalement rénovés, pour ne pas parler de la réhabilitation complète de la bibliothèque Toussaint en chantier jusqu'en 2028. Et à ce réseau, il faut rajouter la bibliothèque anglophone totalement indépendante, elle. Donc, une autre bibliothèque, ou plutôt une micro-bibliothèque. Voilà un projet bien étrange. Pour me guider aujourd'hui, c'est Pauline Coinon et Aurélia de l'association Pâques la Lune qui m'accueille. Bonjour Pauline Coinon.
Bonjour.
Bonjour Aurélia Tirmant.
Bonjour.
Alors nous, Aurélia, on devait se rencontrer dans un autre contexte, dans un autre environnement qui n'a pas pu se mettre en place, hein, puisque c'était dans une autre bibliothèque, celle de la Maison d'Arrêt d'Angers. Et puis les arcanes du fonctionnement administratif font que à un moment donné le temps est très très long et le temps de l'administration n'est pas forcément le temps de l'action. Et donc voilà.
C'est exactement ça.
C'est ça. Hein
oui.
Donc en faisant le constat qu'on ne pouvait pas mettre en place ce projet sur la bibliothèque de la Maison d'Arrêt, vous m'avez dit, mais il y a peut-être un projet qui pourrait vous intéresser, qu'on conduit aussi, que Pâques la Lune conduit aussi, c'est le projet de la micro-bibliothèque. Mais avant d'entrer dans le cœur du réacteur, le cœur du sujet, puisque j'ai deux interlocutrices autour de la table, il y a l'étape incontournable, c'est la présentation. Alors, on va commencer par Pauline Coinon. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, alors je m'appelle Pauline et d'origine je suis comédienne. Voilà, j'ai fait le conservatoire de théâtre à Angers et puis après j'ai eu pas mal de vie professionnelle et je suis arrivée à Pâques la Lune par ce biais-là, par le théâtre. Et de fil en aiguille, depuis plusieurs années que je travaille à Pâques la Lune, j'ai été intervenante artistique, puis coordinatrice de projet. Aujourd'hui, je suis responsable du site d'Angers de l'antenne de Pâques la Lune. Je conserve toujours ma casquette de comédienne, et notamment avec la spécificité de faire beaucoup de travail autour de la lecture à voix haute.
Eh ben, l'émission Entre les pages, travaillant la question du livre et de la lecture, vous êtes tout à fait à la bonne place et au bon endroit. Mais depuis quand vous avez intégré Pâques la Lune? Je dirais, quand je dis depuis quand, c'est depuis quand la première fois, toute première fois?
La toute première fois, c'était il y a environ 6 ans. Voilà. Pour des interventions, surtout en milieu scolaire et puis dans la rue, autour du théâtre qui était mon cœur de métier.
Et vous, Aurélia Tirmant, vous êtes qui, vous, Aurélia Tirmant?
Eh bien, moi, j'ai une formation de graphiste et d'illustratrice. J'ai été intervenante à Pâques la Lune quand je suis arrivée pour faire les activités, les animations dans l'étape sur la ville d'Angers.
Donc l'étape, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les ateliers qui se déroulent en temps périscolaire.
Voilà, tout à fait. Donc j'ai intégré Pâques la Lune en tant qu'intervenante artistique à ce moment-là. Puis j'ai intégré l'équipe en interne, on va dire vers 2019. Ce qui fait que pendant un an, jusqu'en 2020, J'ai été dans le projet de Pâques la Lune avec les animations en quartier, puisque Pâques la Lune propose également des animations en quartier pour tout public, familial entre autres, et les enfants. Et puis en 2021, Pâques la Lune a répondu à un marché public pour la maison d'arrêt. Et depuis 2022, je suis sur le poste à la maison d'arrêt.
Oui, quand on doit se présenter, je trouve que ça doit faire très 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 étrange, quoi. Je travaille à la maison d'arrêt, bon.
En tant que coordinatrice culturelle, oui, tout à fait. Je me charge de la programmation en fait artistique et culturelle pour les personnes détenues.
Alors on y était. Moi j'y suis allée, hein. J'y suis allée avec vous.
Oui.
Hein.
J'ai on s'est rencontrés là-bas. Tout à fait.
J'ai participé même à un atelier et j'ai dit tant aux personnes qui étaient à l'atelier qu'à vous et qu'à l'intervenante de la maison Julien Gracq, que ça reste une des expériences marquantes de ma vie, en fait. Voilà, ça reste une des expériences vraiment marquantes de toute ma vie. En fait, je crois que j'ai jamais vécu une expérience aussi si troublante que celle-ci. Pâques la Lune, voilà, c'est quand même un drôle de nom. C'est quoi ce nom-là?
Alors, en fait, c'est écrit par notre directeur quand il est sorti du conservatoire de théâtre d'Angers avec des camarades. Ils ont décidé de monter une compagnie de théâtre. Et la recherche de nom pour une compagnie de théâtre, c'est toujours quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Il y a eu un brainstorming énorme. Et à un moment donné, ils se sont dit, il n'y a pas que sur la Lune qu'on rêve. Et d'où la contraction de Pâques la Lune. Et c'est notre objectif, c'est de faire rêver tout le monde et pas que sur la Lune et dans les étoiles.
Mais bon, un brainstorming pour ça, c'est peut-être un peu surdimensionné, mais bon, c'est clair, ça me va comme réponse. Deuxième demande de précision, moi je suis ici, dans l'association Pâques la Lune, 49. Donc s'il y a 49 après Pâques la Lune, ça veut dire que, j'imagine que ça signifie que c'est le numéro minéralogique du Maine-et-Loire, ça veut dire qu'il y a d'autres Pâques la Lune.
Tout à fait. En fait, l'association Pâques la Lune est née à Nantes. Même si elle est issue de comédiens du conservatoire d'Angers, c'est à Nantes qu'elle est née. Et puis, petit à petit, il y a eu des projets qui les ont amenés à sortir un petit peu des quartiers de Nantes, venir jusqu'à Angers. Lors de la rénovation du quartier Vernou, qui s'appelle maintenant les Hauts-de-Saint-Aubin, il y a eu un projet artistique. Donc, c'est comme ça que ça a commencé à Angers. Et puis, on est venu à Mon Plaisir parce que le bailleur social de l'époque nous a proposé de venir. Et il pensait qu'on avait des choses à faire dans ce quartier-là. Donc, on est arrivé ici. Et maintenant, on a ouvert une antenne à Vannes, donc qui s'occupe de la Bretagne en général. Donc, Vannes, Redon et Auray principalement. Et puis, on a aussi des collègues qui travaillent maintenant à Reims, puisque le bailleur social également à Reims a souhaité qu'on travaille avec eux. On a même un artiste à Marseille, dans les quartiers nord. Et l'idée, c'est qu'on a une stratégie d'essaimage. Pour pouvoir subvenir aux besoins d'une association, il faut se diversifier. Donc, on essaime petit à petit. Et pourquoi pas ouvrir notre horizon un peu plus loin que juste nos quartiers de l'Ouest.
Alors, on est dans le quartier Mon Plaisir, à Angers. On est à un des bouts du quartier Mon Plaisir, oui, à Angers. Le quartier Mon Plaisir a vécu une période de rénovation urbaine forte,
oui,
mais c'est à l'autre bout du territoire.
Tout à fait. C'est un des enjeux qu'on a à Pâques la Lune et un de mes combats les plus forts, je crois, c'est de faire appartenir ce micro-quartier qui s'appelle Nozay au quartier Mon Plaisir et que les habitants de Nozay se sentent appartenir au quartier de Mon Plaisir avec tout ce que ça comporte et qu'ils trouvent une légitimité à profiter de cette rénovation qui n'est pas finie mais qui est presque finie et dans lesquelles ce quartier-là, Nozay, n'est pas du tout inscrit. Donc il n'y a aucune rénovation qui a été faite depuis des années maintenant.
Moi j'invite les personnes qui nous écoutent à aller sur le site de la ville d'Angers pour regarder la rénovation du quartier Mon Plaisir. Il y a des images historiques, hein, et il y a deux trois images donc qui montrent le tout début du quartier Mon Plaisir, donc à la fin des années 50, avec la construction de quatre premiers bâtiments, c'est quatre bars. Et quand on voit les photos, c'est quatre bars qui sortent de terre, il y a rien autour, hein. C'est des prés, il y a un château juste à côté, enfin une grosse propriété juste à côté. Et puis après, il y a le développement du quartier qui va se faire. Ici, ça se fait un peu plus tard. C'est oui. Quelle année à peu près ici?
Il me semble que dans les années 60, il y a une partie du quartier qui a été construite pour les gens du voyage qui voulaient se sédentariser. Et c'est de là que c'est venu, donc c'est le quartier Trémolière qui est collé à Nozay. Et puis Nozay, ça vient vraiment de cette fameuse grosse propriété qui est un manoir qui s'appelle le manoir de Nozay, qui actuellement va être réhabilité pour accueillir des associations.
Premier chantier fin des années 50, des bars qui sortent, un quartier pavillonnaire d'accession à la propriété. Oui. Je pense que c'est important de brosser un peu ce paysage pour que les gens voient bien. Et puis là, on est dans un, alors on est au bord d'un boulevard. Hein. Il y a donc une série de bâtiments. Il y a combien de bâtiments sur cet espace-là?
Alors, il y a plusieurs entrées pour certains bâtiments, mais là, on est sur un ensemble de 5 bâtiments.
Et combien d'habitants? Ça fait combien d'habitants?
Alors, le chiffre exact, que je peux pas l'avoir, mais on est sur une moyenne de plus de 500 habitants, parce que c'est des familles, et donc certaines familles qui sont dans un appartement type T3, mais avec 4-5 enfants. Mmh. Donc on a une forte population.
C'est un quartier qui a vécu, hein. Il est patiné. On va dire qu'il est patiné.
Oui, c'est un joli mot. Il est patiné, tout à fait. Il a le charme du temps qui passe.
Voilà. Donc, le Parc La Lune, c'est une association qu'on peut définir comme association culturelle et sociale. Hein, c'est dans cet ordre-là qu'il faut donner un peu le...
C'est ça, qui s'est construit aussi avec la politique de la démocratisation culturelle. Et donc, on est une éducation populaire. Et ça a vraiment un sens, c'est-à-dire qu'on part vraiment de l'idée que chacun d'entre nous est porteur de culture et qu'on souhaite les mélanger. Et pas être dans une idée que nous avons un savoir et une culture qu'il faudrait donner au petit peuple. Ça change fondamentalement notre façon de voir et de pratiquer les choses.
Association culturelle, donc, qui a choisi d'utiliser la culture comme moyen d'intervention sociale.
Tout à fait, vraiment en étant convaincu qu'il y a des droits culturels, qu'il faut les faire valoir et que l'égalité des chances, ça passe avant tout par la culture, ou en tout cas par la pratique et culturelle et sportive.
Et si on faisait une pause musicale ?
Du rien, j'en ai la gueule de bois. Ivre d'heure vide, un kilomètre immobile à la fois. Ma tête est un disque rayé, ma vie est un disque rayé. Mais entre les barreaux, le ciel m'embrasse. Pleurer de larmes vides, rire devant un écran, sentir le poids des années. Des années. Je le tue encore. Des châteaux de sable se dressent pour que je m'écrase encore. Les pieds devant l'écran, morte sur mon canapé. La délice s'éteint. Charpente, je caresse le néant du pouce en orbite autour de l'existence. Je me rappelle qu'à travers la vitre, on ne se prend pas dans les bras. Je voudrais fendre le ciel, cette dalle de béton lisse, ce monde que je crois connaître du bout des doigts. Entre portes et volets fermés, viens, viens le monde, je t'accueille chez moi. Le délice éteint, je le tue encore. Des châteaux de sable se dressent pour que je m'écrase encore. Les pieds devant l'écran, morte sur mon canapé. Le délice éteint, je le tue encore. Des châteaux de sable se dressent pour que je m'écrase encore. Les pieds devant l'écran, morte sur mon canapé. Je suis le sujet du roi du réel. Augmenter ma soif de pixels bleutés. De tes qui toi paf, je clique. Quand tes qui toi paf, on m'ordonne. De la bombe, de la bonne. Coupé, dosé, algorithmé pour moi.
Coupé, dosé, algorithmé pour moi.
Coupé, dosé, algorithmé pour moi. Le délice s'éteint, je le tue encore. Des châteaux de sable se dressent pour que je m'écrase encore. Les pieds devant l'écran, morte sur mon canapé. Le délice s'éteint, je le tue encore. Des châteaux de sable se dressent pour que je m'écrase encore. Les pieds devant l'écran, morte sur mon canapé. Le délice s'éteint. Le délice s'éteint. Le délice éteint, je le tue encore. Des châteaux de sable se dressent
pour que je m'écrase encore les pieds devant l'écran morte sur mon canapé.
C'était un groupe que j'aime bien, Gris Cornac. Ils chantaient un de leurs nouveaux titres, Canap, une manière d'annoncer leur concert au Shabada. Retour dans la micro-bibliothèque de Nozay. Vous écoutez Entre les pages et ce n'est que sur Radio G. Écoutons Pauline Coinon nous parler du livre comme moyen d'intervention sociale. Et donc dans la culture, il y a le livre.
Oui, il y a le livre.
En fait, pourquoi le livre ?
Pourquoi le livre ? Parce que, alors, on est dans le livre et la défense de l'écriture contemporaine. C'est-à-dire que des livres classiques, on peut en avoir, mais c'est pas le cœur de notre travail. Ça va vraiment être la défense de l'écriture contemporaine. Le livre, parce que c'est un objet qui a plein de possibilités et qui regorge beaucoup d'humanité. Et c'est aussi un moyen de faire un pas vers l'autre et d'accéder à sa culture. Voilà, c'est une façon aussi de réduire les inégalités, donner l'accès aux livres aux enfants, notamment issus de parents d'immigrés, c'est leur permettre d'accéder à une forme de sociabilité, ou en tout cas de réduire ces inégalités. Et puis le livre, parce qu'on est tous des passionnés de livres ici, non, pas que la Lune aussi.
Le projet de micro-bibliothèque, il est né quand ?
Il est né en 2022, on a monté un projet, on a répondu à un appel à projet pour faire ce qu'on appelle des salons de lecture, c'est-à-dire que c'était tout un dispositif avec des coussins, des tapis visuels que l'on installait dans les halls d'immeubles ou si on pouvait en extérieur, en pied d'immeuble, vraiment dans la rue, et où on donnait des lectures à voix haute. Et on proposait aussi aux habitants de lire, de s'installer sur des transats, des coussins, juste avoir accès à la lecture comme ça pour 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est à eux de choisir.
Juste avant oui. De continuer, qui avait lancé cet appel à projet ? Il venait d'où cet appel à projet ?
Cet appel à projet, il venait, il me semble, parce que c'était pas moi qui instruisais le dossier à l'époque, il me semble que c'était un appel à projet de région. En fait, Pays de la Loire.
La et région donc, ouais. Pays de la Loire, oui. Qui est présidée par Madame Morancet, qui a coupé les crédits à la culture. C'est
oui.
Celle-là. Hein.
C'est celle-là. Donc, je pense que elle n'a pas la vue sur tous les appels à projets. Et effectivement, on rentre par des biais un petit peu différents. C'est-à-dire que aussi, c'était quand on a instruit le dossier, c'était l'idée de rompre l'isolement des habitants en s'installant à des endroits et leur permettre de créer du lien social les uns avec les autres dans des espaces où on ne fait que se croiser, c'est-à-dire devant son immeuble ou dans le hall. C'est un peu comme ça qu'on est rentré. C'est pas forcément par la porte culture qu'on obtient les choses.
Oui, mais malgré tout, pas que la Lune, culture, ça veut dire que la culture a une efficacité. Enfin, ça peut avoir une pertinence dans le travail social.
Ça a une pertinence, ça, ouais. On en est convaincus, oui.
Et si on imagine que si la région a lancé un appel à projet de cette nature-là, c'est qu'elle pensait, elle aussi, que la culture avait une pertinence.
Oui, c'est pas parce que il y a des fortes baisses de subventions que la pertinence elle est remise en question. C'est juste que entre cette pertinence là ou de l'argent ou d'autres projets qui sont plus valorisants, ils vont faire des choix aujourd'hui. Mais à l'époque, en tout cas, c'est sûr que ça leur paraissait pertinent.
À l'époque. Comme quoi, les temps changent. L'habitat social ne change pas tant que ça, mais les temps politiques changent.
Oui.
Bon, c'est
tout
une évolution.
Fait.
Pour que les choses soient claires, je ne m'interdis pas d'avoir une parole aussi politique.
Oui.
Dans cette émission, parce qu'il n'y a pas l'action sociale, c'est aussi de l'action citoyenne et politique. Donc ça me semble important. Donc 2022, création de cette
de ce salon de lecture.
De ce salon de lecture qui va voir émerger la micro-bibliothèque.
Alors ensuite, on a répondu aussi à un appel à projet là de Bibliothèques sans frontières, qui est une asso qui travaille beaucoup sur le livre de plein de manières différentes. Et là, c'était pour justement monter ce qu'on appelle des micro-bibliothèques, qui est un appel à projet bien spécifique de Bibliothèques sans frontières. On a été lauréat et donc à l'échelle de l'ensemble de notre association, on a reçu 1500 ouvrages qu'on s'est partagés. Donc sur Angers, on a reçu environ 500 ouvrages qui étaient soit neufs, soit c'était des dons de très bonne qualité. Donc on a reçu les dons sans forcément savoir ce qu'on allait recevoir. Et avec tous ces ouvrages-là, on s'est dit, mais en fait, on peut pas juste les sortir qu'une fois par semaine et les offrir dans la rue comme ça pour 5-10 minutes. Faut qu'on en fasse quelque chose. On a eu l'opportunité, c'est pour ça que c'est spécifique à Angers, c'est qu'ici, nous, on a eu l'opportunité de réaménager un local que le bailleur social nous met à disposition pour pouvoir l'ouvrir au public. Donc, on s'est lancé un peu dans ce projet fou. On peut dire que c'était fou, en se disant bon, ça doit pas être si compliqué que ça d'ouvrir une micro-bibliothèque, c'est parti, on y va. Et on s'est fixé comme cap l'ouverture en décembre 2023. On a ouvert en décembre 2023, on a fait une belle ouverture, sauf que on était absolument pas prêt à emprunter, à faire de l'emprunt, puisqu'on se rendait pas du tout compte du travail que c'était. Le cotage et tout ça, c'est un travail immense et qui demande des compétences. Et heureusement, on a une habitante de ce quartier qui a travaillé pendant très longtemps à la bibliothèque anglophone, qui a été bénévole dans d'autres bibliothèques, qui a monté une bibliothèque dans l'école de ses enfants il y a quelques années, qui nous a dit « bah moi, je veux bien vous aider ». Et je pense qu'elle mesurait pas que quand on nous dit ça, nous, on y va. Et du coup, pendant 4 mois, on a travaillé d'arrache-pied en collaboration avec cette habitante pour faire un catalogue, une cotation, un référencement, comprendre comment ça fonctionnait et puis se poser les questions qu'on ne s'était pas posées, qui étaient, et en fait, comment on fait? Comment on recrute des adhérents? Est-ce qu'on les fait payer? Comment c'est ouvert? Et comment on fait une ouverture? Voilà, on a travaillé pendant 4 mois sur ça et en avril 2024, on a réellement ouvert notre bibliothèque et on a fait des emprunts.
Donc, qui est une bibliothèque donc de prêt, hein, les habitants peuvent venir.
Oui.
Déjà, vous avez un fonds de combien de livres à peu près?
Alors, actuellement, on est passé donc de 500, puisqu'il y en avait une donation de 500, à 1095 précisément.
1095.
Sachant que j'ai encore 5 cartons de livres à côté. Donc ça arrive petit à petit. Donc c'est beaucoup de dons. En fait, on nous a fait beaucoup de dons des habitants, nous ont fait des dons. Il y a eu du désherbage de la bibliothèque municipale, du désherbage de la bibliothèque de la maison d'arrêt. Et puis le bailleur social qui nous a fait des dons et qui a demandé à ses salariés de nous donner des livres. Et puis nous, salariés, régulièrement, on fait des dons, on va dans des boîtes à livres, on va voir à droite à gauche, on chine et on fait des dons en ayant en idée, en tête que notre public est un public qui a du mal à avoir accès à la lecture. Et donc on va chercher des ouvrages spécifiques qui peuvent les aider à lire.
Le fonds, donc, il se constitue... Vous l'avez dit, hein, par des dons. Mais est-ce que vous avez une politique d'achat?
Les livres qu'on achète, on en achète régulièrement. On les propose en bibliothèque de rue, en animation. On fait beaucoup de travail d'oralité autour de ça. Par contre, on les met pas à la bibliothèque parce que c'est vraiment des ouvrages spécifiques qu'on travaille sur la lecture à voix haute ou qui sont des ouvrages de théâtre. Et donc, on souhaite garder pour nous pour pouvoir les avoir disponibles quand on fait des spectacles. Parce qu'on fait des spectacles avec des livres. Et s'il est emprunté, ça peut nous mettre en difficulté. Donc, on est à une politique d'achat, mais qu'on garde vraiment là pour le travail artistique.
Malgré tout, politique d'achat, ça représente un budget? Vous avez une idée du budget que ça représente par an?
Pas exactement, parce qu'en fait, comme on travaille beaucoup au projet, on arrive à cofinancer des achats par différents projets et par différents biais. Et également, comme on a de plus en plus de mécènes, puisque moins de subventions, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve de l'argent ailleurs. Donc, c'est aussi par le mécénat, des fois, qu'on arrive à avoir des enveloppes qui nous permettent d'acheter. Donc ça dépend vraiment des moments, mais on va dire je pense qu'on est plus autour de 200 ou 300 euros qu'on peut dépenser pour des ouvrages spécifiques.
Vous l'avez dit, politique de don pour constituer le fonds, oui. Mais désherbage, ça veut dire critères, ça veut dire, je reviens au début de notre conversation, Pâques la Lune, association culturelle et sociale. Avec un primat sur le culturel. C'est l'intervention culturelle, l'intervention artistique qui va commander les actions que vous conduisez sur les territoires.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a une vision.
Oui. Hein?
Et une bibliothèque, c'est une vision aussi. C'est-à-dire que le fonds de livres, il se construit pas au hasard. Il se construit pas n'importe comment. Donc, quels sont les items? Quels sont les critères qui vous amène à dire ce livre, il va aller dans la microbibliothèque et ce livre pas. Comment vous opérez ces choix-là? Alors, d'une part, comment et d'autre part, qui ?
Alors, le comment, c'est vrai que par rapport à nos dons, on a reçu beaucoup de livres qu'on a décidé d'évacuer parce que soit les auteurs étaient problématiques.
C'est quoi un auteur problématique ?
Un auteur problématique.
Parce que je vous rappelle que des auteurs problématiques, Donald Trump, on a en ligne de mire, hein.
Voilà. Et alors, c'est vrai. Non, des auteurs problématiques, c'est par exemple, on a reçu un des ouvrages de Philippe de Villiers qui veut parler de la Vendée. Pour moi, c'est problématique parce que c'est une vision politique et culturelle qu'on ne partage pas et qui n'est pas à l'image de ce que l'on vit au quotidien ici. Mm-hmm. Donc voilà, c'est plus par ces visions-là qui sont parfois dérangeantes. On peut avoir aussi, on a enlevé aussi des auteurs problématiques parce que c'était des ouvrages de régime ou de genre comme ça qui ont été prouvés comme étant mauvais pour les personnes. Donc ça, c'était un peu ce genre d'ouvrage, on les évacue. On a décidé on est une association laïque, donc on n'a aucun ouvrage religieux. On aurait pu avoir des ouvrages religieux s'ils avaient représenté beaucoup de religions. Voilà, on ne peut pas avoir un seul ouvrage qui défend une religion. Et ensuite, on va partir sur des contenus qui sont faciles à lire pour la plupart. On fait très attention à l'aspect multiculturel. Donc quand on a des livres en langue étrangère, on essaie de pouvoir accéder à la lecture en langue étrangère. On va aller sur de la poésie, puisque c'est la défense aussi de l'œuvre contemporaine et notamment poétique. Et après, pour tout ce qui est ouvrage jeunesse, on cherche des titres où le message va correspondre à nos valeurs, qui sont la défense des droits culturels, le respect de chacun, la laïcité, l'égalité. Voilà. Ça va être fondamentalement ça. Et pour les ouvrages, là, pour le coup, les romans adultes, on va aussi partir de nous salariés, les œuvres qui nous ont plu, pour pouvoir les expliquer, les défendre et les conseiller à nos habitants.
Je vous propose d'écouter maintenant l'audio.
Bango bako
Une des belles surprises du dernier album de l'Audio, Feuille Fauve, ça s'intitule Brother Barrett, avec la belle voix de Jupiter et les beaux sons de Hawkwes. Vous êtes bien sur Radio G et vous écoutez Entre les Pages. Retournons dans la micro-bibliothèque de Nozay, animée par l'association Pâques la Lune. On a vu un peu les orientations, hein, de, les choix de mise en rayonnage. Maintenant, qui opère ces choix? Est-ce que c'est des choix, est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est un collectif? Ou est-ce que c'est des habitants?
Alors, ça va être plutôt collectif salarié. C'est-à-dire que c'est nous, salariés de Pâques la Lune, qui choisissons ensemble, en fonction de nous aussi, notre de là où on est, de notre culture littéraire ou pas, en fait, et de nos sensibilités à chacun. Les habitants, on va plutôt les orienter pour nous faire des coups de cœur ensuite sur les ouvrages qu'on leur propose. On n'est pas sur de la sélection avec les habitants. Parce que pour l'instant, la plupart des habitants qui viennent ici ont quand même du mal à lire. Ça prend beaucoup de temps pour eux. Donc sélectionner un livre, ils se sentent absolument pas légitimes.
Vous avez parlé de livres de poésie. Si vous pouvez me donner deux titres, trois titres de livres de recueils que vous avez ici.
Alors, on a des recueils de Alban Gelé, qui est une auteure locale.
Saumuroise. Locale. Rando à Saumur, ce qui appartient à Saumur.
Oui, pardon.
Une
autrice saumuroise, d'ailleurs avec qui on travaille, hein, puisqu'on a une vraie sensibilité avec elle dans l'écriture et qui fait des interventions à la maison d'arrêt en tant qu'atelier d'écriture, en tant que poétesse, et qui sont magnifiques. Donc, on va avoir Alban Gelé. Ensuite, on va avoir des recueils. Alors, je vais pas dire le nom parce que je vais l'écorcher, mais d'auteurs palestiniens. Voilà, on a un recueil d'auteurs palestiniens sur de la poésie contemporaine là encore, mais qui est très forte. Et puis on a du Rimbaud. Je sais que j'ai parlé d'auteurs contemporains, mais
c'est
Rimbaud.
Pas très contemporain.
C'est pas très contemporain, mais j'ai une faiblesse pour Rimbaud. Par rapport à son écriture, c'est que c'est très, pour moi, c'est accessible. C'est assez facile et c'est très émotif et l'émotion, ça parle à tous.
Donc ça, c'était juste pour dire qu'il y a de la poésie dans la micro-bibliothèque, ce qui me va très bien. En plus, qu'il y ait de la poésie et qu'il y ait Alban Gelé, moi, ça me va parfaitement bien. Je viendrai emprunter des livres ici. Ça, c'est un peu donc en rom. On va rester dans le domaine adulte. Si vous deviez me donner quelques titres de romans pour adultes que vous avez.
Alors, là encore, je parle de défense de l'écriture contemporaine, mais mon coup de cœur littéraire, c'est Anna Karénine de Tolstoï, qui n'est donc pas du tout contemporain.
Ni contemporain, c'est pas le plus léger des livres.
Hein. C'est pas le plus léger.
C'est pas un livre de poche. Hein.
C'est pas un livre de poche, oui. Mais on a plusieurs habitants qui l'ont emprunté. Voilà, certains sont allés au bout, d'autres pas, mais ça a permis d'échanger là-dessus, en fait, et c'était assez intéressant, parce qu'en fait, et c'est là où c'était intéressant de pouvoir leur proposer, c'était une figure qu'ils avaient entendue, Tolstoï, Anna Karénine, c'est un nom, ça leur parlait vaguement, et là, ils ont pu faire l'expérience de ça et se dire que eux aussi ils étaient capables d'avoir un avis sur ces romans-là. Donc c'est pour ça que je le cite, c'était important. Alors, et puis parce qu'à titre personnel, je suis très fan de ce livre-là, voilà. Mais
d'autres titres s'il vous plaît.
Alors celui qui a beaucoup fonctionné, c'est Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta, qui a été plébiscité par nos habitants parce qu'ils se sont redonnés. Voilà, ils se sont conseillés.
C'est Mélissa d'Acosta.
C'est une lecture qui est facile. Et pour le coup, c'est pas un péjoratif de dire une lecture facile. Ça veut pas dire que c'est pas exigeant ou que ce qui est dit dedans n'est pas intéressant. Et là, ça a touché un habitant qui l'a lu deux fois, qui l'a redonné. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le cas d'un livre qui est intéressant. Et après, j'ai un habitant qui aime bien aussi les polars. Et donc, on a du Jacques Expert, qui est aussi un auteur assez intéressant et qui a bien plu.
Voilà. Alors ça, c'est dans la série Christophe Ondelat,
oui.
Pierre Bellemare, Jacques Expert. En fait, c'est voilà, c'est le trio de cavaliers du fait divers, de l'exploitation du fait divers, on va dire. C'est ça un peu.
Et
Jacques Expert.
Ils ont aimé. Et Jacques Expert. Après, c'est une écriture qui est quand même romancée. Hein. C'est pas parce que on a aussi du Pierre Bellemare, parce que ça a été une demande de certains habitants d'avoir des histoires vécues. Et là, Jacques Expert, c'est un autre niveau. C'est-à-dire qu'il y a une écriture, c'est romancé, il y a une intention littéraire derrière.
Il faut le rappeler, hein. C'est une micro-bibliothèque, c'est un travail d'accompagnement du public.
Oui.
C'est-à-dire que on échange avec le public qui vient, soit on l'oriente, soit on le guide, soit on essaye de lui faire des propositions, d'échanger avec lui, sachant que l'objectif, c'est de s'approprier la lecture. D'une manière ou d'une autre, on va dire.
Hein. Oui, la lecture, j'irais même plus loin, l'objet livre. C'est-à-dire que sur les temps d'ouverture de la bibliothèque, on prend le temps plutôt avec les adultes et on prend le temps aussi de faire de la lecture à voix haute. Par contre, sur nos animations extérieures, on a toujours des livres et on travaille vraiment sur le fait que l'objet livre peut être un objet et peut être source de jeu, d'imagination, de création. Voilà, donc on va travailler sur l'illustration, on va travailler sur les couvertures, on va même faire des jeux avec les livres. Quelle est notre capacité à faire une pile de livres très très haute? Comment on peut les empiler? Et puis qu'est-ce que ça raconte? Et puis comment on peut mélanger des titres? Comment on peut mélanger des couvertures? Enfin voilà, on va vraiment travailler sur le livre sous toutes ses formes, ou en tout cas on essaie.
Passons au jeune public.
Oui.
Allez, une BD jeune public.
Alors, une BD jeune public, ce qui fonctionne bien, c'est Les Loups. C'est toute une collection, c'est L-O-U, Loup, c'est une petite fille qui vit des petites aventures.
Julien Niel.
De
Julien Niel.
Donc, Le Loup a été vraiment sorti. Qu'est-ce qui a bien fonctionné chez nous? Alors après, c'est plus des mangas qui fonctionnent. C'est Chi le chat.
Chi, une vie de chat.
Voilà. Malheureusement, et c'est là notre limite avec les dons, c'est quand c'est des séries avec plusieurs tomes, et ben on récupère quelques tomes, on essaie d'acheter, mais on a des trous. Et surtout là, les deux dont j'ai cité, il y a beaucoup de tomes.
Oui, donc c'est pas grave si on loupe un épisode.
C'est pas très grave, mais par contre les enfants, eux, ils les attendent. Donc voilà.
C'est comme dans One Piece. Hein. One Piece, il y a plus de 100 épisodes.
C'est ça.
Si on en loupe un, je pense pas qu'on y perd grand chose en fait, objectivement.
Bah après, c'est là où ça devient.
Mais c'est moi qui le dis, hein.
Alors oui, il y aura peut-être un débat parce qu'Aurélie n'est pas forcément d'accord, mais c'est là où c'est intéressant, c'est quand il nous manque un ouvrage, on peut dire aux enfants, bah nous on l'a pas. Par contre, il y a la bibliothèque Mon Plaisir. Et à la bibliothèque Mon Plaisir, je pense qu'ils l'ont, ou en tout cas, tu peux leur demander et on fait le lien.
Alors on va y venir. Aurélie, vous disiez que. Sur la question des trous dans les séries. La série Gruyère, vous avez un avis sur la série Gruyère?
Oui, j'ai un avis parce que c'est quand il y a des séries comme ça qui fonctionnent, genre One Piece, Naruto, Bleach ou autre, je parle de l'expérience de la maison d'arrêt d'Angers. S'il y a des trous, certes, ils vont continuer à lire s'il n'y a pas les tomes correspondants. Par contre, ils vont demander à ce qu'ils soient quand même acquis. Pour pouvoir compléter l'histoire. Et ça, côté détention, ils sont très regardants sur les suites des séries.
Donc, ça montre que le trou est un instrument de pédagogique pour sensibiliser le lecteur, puisque vous créez le besoin, et que le besoin existant, il le demande. Ça veut dire que si on demande ce qui manque, ça veut dire qu'on a lu. Donc l'objectif est quasiment atteint. Bon, c'est déjà pas mal ça.
C'est déjà pas mal. Oui, et puis en fait, alors après peut-être que c'est une fausse bonne excuse, mais moi je leur dis souvent, bah oui, on l'a pas. T'aimerais bien connaître quelque chose de cet auteur-là, bah va à la bibliothèque, puisque notre objectif quand même de micro-bibliothèque, c'est de permettre l'accès à la lecture à nos habitants. Mais on est bien conscient que il y a une des bibliothèques à Angers qui a un fort réseau. Et que ce n'est pas notre travail à nous. Nous, on est juste la petite marche qui manque parfois pour que les habitants, ils osent pousser la porte d'une bibliothèque. On essaie en tout cas d'être cette petite marche et de les emmener vers.
Alors, c'est important parce que la bibliothèque Mon Plaisir, qui est à l'autre bout du territoire, oui. Vraiment une autre, diamétralement opposée. Hein,
elle commence à être un petit peu loin, ouais.
Ouais. Et puis, il y a du boulevard à traverser. Enfin, c'est une bonne gymnastique. Donc ça veut dire que vous avez une relation. Moi, vous conduisez des animations Pied de batte, hein, vous appelez ça
oui,
pied de batte. Hein.
C'est ça.
Pied de batte, c'est des émissions au pied des bâtiments. Hein.
C'est ça, dans la rue ou dans les halls quand il fait pas très beau.
Alors, j'étais récemment à la bibliothèque Mon Plaisir et je voyais une de vos affichettes qui fixait un rendez-vous. Alors, je sais pas à quel bâtiment, je sais pas où, je sais pas quoi. Mais pied de batte, ça m'a frappé un peu. Et puis quand je suis arrivé dans vos locaux tout à l'heure, que j'ai vu vos jeunes en service civique qui travaillaient sur de la communication autour d'action pied de batte. Voilà, j'ai fait le lien immédiatement. Et maintenant, une petite respiration musicale. C'était Cégibette qui chantait Maybe I'm Lying, une des belles révélations musicales de l'année. Vous écoutez toujours Entre les Pages et c'est sur Radio G, dernière étape de ma conversation avec Pauline Coinon, l'une des responsables de la micro-bibliothèque de Nozay. Mais justement, par rapport à la bibliothèque Mon Plaisir, qui a été totalement rénovée, qui est un objet superbe, hein, enfin, oui. Moi j'étais assez étonné de l'outil qui s'est créé là-haut. Vous dites, on est une petite marche.
Oui.
Mais est-ce que vous organisez des expéditions pour aller dans la bibliothèque Mon Plaisir?
Oui, alors on l'a fait. Là, récemment, on n'a pas pu vraiment le faire pour plein de raisons. Mais on l'a fait et surtout on travaille avec eux. C'est-à-dire que dans le cadre des pieds de batte, qui est vraiment, là, c'est un dispositif de la ville auquel nous on participe et on porte des projets sous ce nom-là qui est là. Donc là on a la bibliothèque municipale qui est venue donc mardi après-midi faire de la lecture à voix haute pendant que nous on faisait d'autres activités. Ils reviennent aujourd'hui. Donc on travaille en lien là-dessus. Évidemment, quand on a ouvert notre micro-bibliothèque, on est allé les voir d'abord en leur disant qu'on avait ce projet et on souhaitait travailler avec eux. Tout ce qui est attrait aux livres ne peut pas passer autrement que par la bibliothèque. Après, ils n'ont pas forcément le temps de faire de la bibliothèque de rue et pas forcément non plus les compétences de le faire au quotidien, parce que c'est vraiment un travail sur le long terme. Donc, on travaille vraiment dans cette idée que bah, nous, on est la petite marche pour les emmener vers, et que eux, ils savent très bien qu'il y a des bibliothèques de rue qui se font mal sans eux, et tant mieux, puisqu'ils peuvent pas toujours le faire.
Ça, c'est important de le dire. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'incohérence à ce que des projets s'inscrivent, s'inscrivent au cœur des territoires, que ça se fait en bonne intelligence avec les dispositifs. Voilà, il n'y a pas contradiction, pas opposition. Il y a simplement complémentarité.
Oui, c'est ça. Il y a une vraie complémentarité. Et par ailleurs, avec la Lune, on travaille avec la bibliothèque municipale depuis quelques temps un peu plus étroitement via la maison d'arrêt, puisque Aurélia les fait intervenir régulièrement.
Oui, la bibliothèque municipale, c'est un de nos partenaires réguliers au niveau de la maison d'arrêt. Ils viennent deux fois par mois, une fois pour proposer des actions autour du livre et de la lecture, justement. Et puis une fois par mois aussi autour du jeu. Puisque c'est aussi un biais de resociabilisation et de lutte contre la récidive en apprenant des règles, tout simplement. Donc voilà, autour du jeu et quel qu'il soit, on travaille évidemment sous forme de comité de pilotage avec la bibliothèque municipale pour les thématiques d'intervention.
Alors c'est important ces précisions, enfin donc de montrer qu'il n'y a pas incohérence, qu'il y a complémentarité. Mais au début de cette conversation, vous avez dit, on a répondu à un appel à projet.
Oui.
Moi, ce que j'ai compris de la structure Pacte la Lune, alors, et de la micro-bibliothèque, c'est que la pérennité, parce qu'on va parler de pérennité.
Oui.
La pérennité, elle est à courte échéance, en fait. Hein, parce que vous travaillez, j'imagine, je vais vous dire ce que j'imagine, tous les mois de mars, vous faites des bilans. Que vous attachez à des demandes de subventions ou des réponses d'appel à projet, vous avez la réponse au mois de juin, juillet, vous commencez à agir, mais il faut commencer à préparer le bilan, et vous recommencez tous les ans la même chose, quoi. C'est à peu près ça, non?
Alors, oui, il y a de ça, il y a aussi le fait qu'on travaille, comme on est dans un quartier prioritaire de la ville, il y a un relais mairie, et il y a donc un dispositif qui s'appelle le contrat de ville, qu'on appelle le CVU, qui permet de faire des actions culturelles, sportives, sociales, etc. Donc nous, on dépose chaque année un CVU dans lequel on inscrit des projets au quotidien, et nos appels à projets vont plutôt nous permettre de faire des actions ponctuelles ou de financer des actions qui, par ailleurs, ne seront pas que à l'échelle du quartier Mon Plaisir.
Mais ça ne change rien à ce que je dis. Contrat de ville, c'est ça. Tous les ans.
Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, Pacte la Lune est encore là, alors qu'il y a des associations sociales et culturelles qui disparaissent dans le territoire en juin et pas que maintenant, même. C'est que on a un directeur, Christophe Chauvet, qui depuis des années nous dit qu'il faut qu'on mette pas tous nos œufs dans le même panier, parce que c'est dangereux. Donc en fait, depuis des années, il est en réflexion sur comment diversifier les financements, comment faire en sorte qu'on ne soit pas dépendant seulement d'un financeur, mais qu'on assure notre propre autodépendance. Ça a fonctionné pour nous permettre de continuer à vivre aujourd'hui. Ça fait deux ans que les fins d'année effectivement sont très délicates et financièrement on est dans une situation délicate. On croit toujours que notre projet, il est pas seulement social, il est nécessaire. C'est un projet avec une défense aussi politique, une vision du monde qui, donc on est persuadé que nous sommes nécessaires. On veut le faire entendre et voilà, on verra peut-être que dans 10 ans, on sera encore là. Nous, on se projette jusqu'à dans 25 ans. Donc voilà, on y croit.
C'est
ce qui permet de continuer à faire ce travail effectivement très redondant des financements, des bilans chaque année. C'est de croire que dans 25 ans, on sera encore là.
Moi, ça me va. Hein. Oui. L'optimisme, tout ça me va très très bien.
Je suis une éternelle optimiste. Sinon je serais pas là.
Dans ce champ d'activité là, c'est le minimum requis si on veut pouvoir agir au quotidien. Revenons, on va faire un petit pas en arrière parce que on a parlé du fonds de livre, on n'a pas assez parlé et c'est important d'en parler des habitants, les gens qui fréquentent la micro-bibliothèque, comment ça se passe? Il faut être adhérent, il faut avoir une carte, Comment vous nous avez parlé de la normalisation de la bibliothèque, c'est-à-dire que vous avez coté tous les livres là, machin. Voilà, vous avez fait le travail de bibliothécaire. Vous avez même utilisé le mot de non pas élagage,
désherbage.
Le fameux mot de désherbage, le mot bien connu des bibliothécaires de désherbage. Mais maintenant, donc les livres sont cotés, les livres sont donc à disposition du public, donc le public peut frapper à la porte et puis dire voilà, je veux un livre. Comment ça se passe?
Alors en fait, on a fait un système d'inscription. On a une feuille très simple et on demande uniquement aux habitants leur nom, prénom, un numéro de téléphone et une adresse avec un numéro de boîte aux lettres. Voilà. Ensuite, on leur dit soit vous pouvez et vous avez envie d'adhérer à l'association avec un prix de 5 € ou plus, évidemment, soit vous pouvez pas. Et c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir emprunter un livre. On a fait le choix de la gratuité parce que on est une micro-bibliothèque et que de toute façon, on n'a pas envie que ces livres ils restent sur les étagères. Donc, on a fait le choix de la gratuité. On n'est pas sur la gratuité à tout prix, parce que il faut aussi que les habitants se rendent compte que la culture, ça a un prix et que il faut aussi qu'on y participe tous. Mais par contre, on souhaite vraiment que tout le monde puisse y avoir accès. Donc on a juste besoin d'un numéro de téléphone et d'une adresse pour pouvoir aller les rechercher si jamais ils ont du retard, ce qui arrive. Voilà. Ensuite, on fait en sorte que chaque action qu'on propose, on parle de cette bibliothèque pour leur dire « venez ». On a un créneau d'ouverture qui depuis un an et demi n'a pas bougé, c'est le jeudi soir, après l'école, de 17h à 18h30, où on accueille tout le monde. Et où on fait en sorte que on prend en passage les parents qui reviennent avec leurs enfants de l'école en disant bah venez nous voir. Et petit à petit, il y a un rendez-vous qui s'est instauré comme ça. Voilà.
Donc, ils arrivent le jeudi de 17h
à 18h30.
De 17h à 18h30, une heure et demie de permanence. Ils prennent des livres, ils regardent les livres, ils en prennent, ils savent pas, vous leur conseillez.
Oui.
Ils les empruntent pour combien de temps?
Alors, on avait défini une durée de 3 semaines. Au final, on leur laisse souvent plus de temps parce qu'en fait, 3 semaines c'est peu pour certains. Donc on leur laisse le temps. Voilà, on essaie de les récupérer pas trop tard, mais on laisse le temps. On n'est pas très strict. En fait, on n'est pas comme on a un fonctionnement très simple par rapport à une bibliothèque, une grosse bibliothèque municipale. Ils ont besoin que les livres viennent pour que tout le monde puisse les emprunter. Nous, finalement, on a peu d'habitants, peu d'ouvrages qui sont très très demandés. Donc on arrive à leur laisser le temps de le lire.
Est-ce que, comme vous avez dit que le livre était un moyen d'intervention, quand une personne rapporte un livre, est-ce que vous avez un échange avec elle sur c'était comment, ça vous a plu, vous en voulez un autre, est-ce que vous voulez le 18e épisode de One Piece?
Alors tout à fait, en fait, alors avec les enfants, on les laisse vraiment vivre leur vie dans la bibliothèque, ils s'installent, ils prennent, ils rangent, ils reprennent, ils lisent, etc. Et petit à petit, on essaie d'avoir un œil sur ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, et on essaie de leur poser des questions. C'est très dirigé, c'est vraiment, voilà, pourquoi ça t'a plu, qu'est-ce que t'as aimé, voilà, on a vraiment une discussion dirigée, parce que sinon, si on leur dit juste, bon, qu'est-ce que t'en as pensé? On risque d'avoir une réponse plutôt... ça dépend de leur humeur, quoi. Avec les adultes, effectivement, on essaie vraiment d'avoir un dialogue, de comprendre ce qui a plu et surtout ce qui permettra petit à petit d'avoir un autre conseil judicieux et de les emmener à lire de plus en plus et des choses de plus en plus différentes. Et on a fait un petit système de coups de cœur, qui est pas très compliqué, hein. C'est sur un petit marque-page avec un petit cœur. On demande aux habitants de, en une phrase... pourquoi ils conseilleraient ce livre-là aux autres et de noter leur nom. Au final, de toute façon, ils se les prêtent entre eux. Quand ça a vraiment plu, ils veulent convaincre la Terre entière que c'est le meilleur livre du monde, donc ça fonctionne comme ça. On a aussi des habitants qui viennent pas spécialement pour les livres, qui viennent pour le lien social qu'ils vont avoir dans cette bibliothèque. Donc on a des habitants qui viennent pendant l'heure et demie, qui parlent, qui écoutent, qui regardent les livres, mais qui vont pas les emprunter. On a une autre habitante aussi qui vient, elle, pour essayer de pratiquer la lecture à voix haute, parce que elle aurait adoré lire des livres à ses enfants le soir, sauf que les garçons, ses fils, se moquaient un peu de son accent. Donc elle est venue ici pour apprendre à travailler ça et avoir une fluidité, et puis on y arrive en fait. Donc elle apprend à lire à voix haute en même temps que je lis des histoires à sa petite, et voilà, ça se passe comme ça.
lecture à voix haute, ça me fait penser à une structure qui s'appelle Lire et Faire Lire. Vous êtes en relation avec Lire et
Alors,
Faire Lire?
Alors, on a eu des relations avec eux. Moi, je suis un peu leurs actualités. Et surtout, des fois, ils mettent des... Aussi, c'est une sorte de réseau où on a des tutos, des conseils, des idées. Voilà, donc oui, effectivement, on suit ça. On a également travaillé avec une association qui est à Montreuil, qui s'appelle Dulala. C'est d'une langue à une autre et qui est beaucoup sur la lecture et le plurilinguisme, qui est un des aspects que moi je souhaitais creuser un peu plus. Donc on a aussi travaillé avec eux et on partage des ressources aussi.
Eh bien, on arrive au terme de la conversation parce que ça a été, il y avait beaucoup de choses à dire en fait. Je pensais pas qu'on prendrait autant de temps, hein, mais tout a une fin. Juste pour décrire le lieu en fait, hein, on est dans un local, alors je sais pas, ça devait s'appeler des mètres carrés sociaux, j'imagine.
C'était l'ancienne loge du gardien de la résidence.
L'ancienne loge du gardien. Voilà. Donc voilà, deux pièces ou quelques pièces, des rayonnages, des livres, un faux arbre avec des fausses feuilles, des coussins partout, des sièges, une banquette, enfin bon, tout ce qu'il faut en fait pour s'installer, pour lire. Moi, je vous remercie de votre accueil. Pauline Coinon et de vos interventions. Vous avez été vraiment très riche dans vos interventions.
Merci, mais je vous remercie de vous intéresser à cette micro-bibliothèque.
Merci Aurélia Tirmand d'avoir été présente.
Merci à vous.
Je pensais qu'on échangerait plus, mais bon, le rythme, la conversation s'est tournée. Voilà, c'est au feeling que les choses se passent.
Je
pense qu'on restera en relation parce que mon idée de faire une émission sur la bibliothèque de la Maison d'Arrêt ne s'est pas arrêtée. aux méandres administratifs. Je pense qu'il faut continuer l'idée parce que le lieu est aussi vraiment intéressant. Enfin, moi, j'y suis allé et le lieu est vraiment intéressant. Donc, ce n'est que partie remise, bien évidemment.
D'accord.
Je vous souhaite une bonne journée.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir.
À vous. Au revoir. À bientôt.
Ce qui est surprenant dans le souci d'agir auprès et avec des habitants, c'est la faculté des porteurs de projets à développer et faire vivre des utopies, ne se laissant pas démonter par les expériences passées, et à imaginer sans cesse avec de nouvelles énergies, de nouvelles propositions. C'est ce que j'ai ressenti dans cette rencontre avec Pauline Coinon et Aurélia Tirmand, cette détermination indéfectible à vouloir agir au service des habitants, presque contre vents et marées. Souhaitons longue vie à la micro-bibliothèque, mais il est l'heure d'éteindre les lumières du studio. Avant cela, vous rappelez que le mois de septembre sera riche dans le monde des livres en Anjou, pas moins de 4 rendez-vous à vous mettre sur la dent. L'International Poétique organisé par la Miel 49 et le Festival Les Préférences, deux manifestations que je suivrai de près, mais aussi Festilivre à Juvardeil et puis aussi Cultissime. Au cours de l'émission, vous avez entendu Grise Cornac qui a chanté Canap, Locho ou plutôt Jupiter et Oquest qui ont chanté Brother Barrett, et Sigibes qui a chanté Maybe I'm Lying. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Au cours du prochain rendez-vous, le mercredi 10 septembre à 17h, Entre les pages fera sa propre rentrée littéraire avec deux invités, Valentin Dedon et Joël Glasiou. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.
Angers.
Just wanna tell you.
101.5 FM.